BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. La liste des horreurs commises par Dominique Pellicot va-t-elle encore s'allonger? Le père de famille, condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme Gisèle par des dizaines d'hommes inconnus, est au cœur d'une nouvelle enquête. Depuis fin 2022, il est mis en examen, notamment pour le viol et le meurtre de Sophie Narme. L'exhumation de la jeune femme qu'il demandait a été refusée par la justice cette semaine. Conséquence, les questions restent extrêmement nombreuses. Pierre-Luc Bousset.
Ce devait être une visite d'appartement ordinaire. Sophie Narme, agente immobilière de 23 ans, avait prévu de faire visiter un bien situé rue Manin, dans le nord de Paris, à un potentiel client. Un guet-apens qui aura coûté la vie à la jeune femme le 4 décembre 1991. Sophie Narme est retrouvée morte dénudée dans l'appartement vide. Autour de son cou, une ceinture qui a servi à l'étrangler. L'autopsie révèle qu'elle a été droguée et violée. Les voisins ne se doutaient de rien.
On n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu.
J'étais pas là de la journée, je suis parti le matin à 8h, je suis rentré dans la soirée et voilà quoi, la police est arrivée dans la nuit.
Aucune trace d'un potentiel suspect jusqu'à l'automne 2020. Dominique Pellicot est arrêté dans un supermarché de Carpentras pour avoir filmé sous les jupes des clientes. Les empreintes du septuagénaire qui livrait sa femme droguée et inconsciente à des inconnus ont permis aux enquêteurs de faire le lien avec le viol et le meurtre de Sophie Narme. Des faits pour lesquels Dominique Pellicot a été mis en examen et qu'il continue de nier. Une demande d'exhumation du corps de la victime a été rejetée par la justice cette semaine. Une autre affaire a attiré l'attention des autorités. En 1999, en pleine visite d'un bien en Seine-et-Marne, un homme tente de droguer et d'agresser sexuellement une agente immobilière. La victime se débat puis se libère. Sur sa chaussure, une tache de sang qui porte l'ADN de Dominique Pellicot. Ce dernier avoue les faits dans un premier temps, avant de finalement nier avoir eu l'intention de la violer.
Deux affaires et de nombreuses questions dont nous allons parler avec toujours Johanna, psychologue clinicienne et consultante, Johanna Rosenblum, pardon, consultante BFM TV. Nous accueillons également Anna Margherita. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste. Vous avez suivi le procès Mazan. Quelle place ont pris ces deux affaires avec leurs questions dans un procès dont on rappelle qu'il a été totalement hors norme et qu'il a marqué, les Français, mais pas seulement les Français.
Bien sûr. Alors la question des cold cases est revenue à plusieurs reprises au cours du procès, bien que le président rappelait que ce n'était pas les affaires qui concernaient le procès en cours. Mais cependant, il y a eu des questions par rapport au mode opératoire, notamment on retrouve toujours l'usage de la soumission chimique, que ce soit par le biais de médicaments ou par le biais de l'éther.
Là, c'est l'éther qui est évoqué dans ces deux cas.
Exactement. Donc on retrouve toujours ces mêmes éléments. On remarque aussi que Dominique Pellicot ne reconnaît pas les faits quand il n'est pas mis en face des preuves absolument irréfutables. Donc, beaucoup d'avocats de la défense ont essayé de le questionner pour creuser, pour savoir s'il pouvait y avoir des choses à obtenir de lui, ce qui n'a pas été le cas. Il s'est muré dans son silence comme la plupart du temps. Ouais.
C'est vrai que ce qui est vertigineux chez tous les dossiers Pellicot, au fond, c'est cette espèce de petit hasard. Parce qu'en réalité, il se fait attraper dans un Leclerc de Carpentras, a filmé sous les jupes de trois femmes qui sont identifiées, ce qui va permettre aux enquêteurs de tirer un fil judiciaire. Et il y a un policier qui a l'idée d'aller perquisitionner chez lui. Alors, la perquisition initiale, elle donne rien, parce que, enfin, elle donne quand même des choses sur son téléphone, hein. Elle va pas donner les vidéos, parce que c'est Pellicot lui-même, dans un second temps, quand il va se rendre compte qu'il est coincé, qui va donner aux enquêteurs un disque dur qu'il n'avait pas trouvé dans la première perquisition, dans lequel il y a la fameuse affaire de Mazan avec les autres. Mais ce qui est frappant avec ces deux cold cases, c'est l'antériorité. C'est-à-dire, c'est 1991. Il est mis en examen pour ça. Il dit qu'il est innocent. Mais c'est à quel point il a été muré. Johanna, aussi longtemps, comment on peut être bloqué à ce point, cacher ça pendant si longtemps ses proches?
Mais il n'a pas été bloqué, en fait. Il a bénéficié d'énormément de chances, comme beaucoup de prédateurs. C'est vrai qu'on rit de cette façon dont il s'est fait attraper au Leclerc, à filmer des jeunes femmes qui faisaient leurs courses. Mais pourquoi il fait ça?
Avec l'insistance d'un vigile qui, à un moment, ne le laisse pas partir, qui fait tout pour le retenir.
Il y a le vigile.
Encore une fois, on parlait parfois des enquêteurs. Mais là, c'est un vigile qui est à l'origine de ce procès hors norme dont on a beaucoup
parlé. C'est la plainte de la femme.
Exactement,
aussi,
évidemment, qui la pousse à aller, évidemment.
Exactement,
c'est le rôle de vigile pour aller... Pour
c'est le point de départ, mais c'est encore une fois le symptôme d'un homme qui s'autorise tout. Et c'est vrai que quand on est face à ce type de personnalité, et je repense à la personnalité, autre sujet du grand-père du petit Émile, on me disait souvent, depuis 20 mois, on découvre un homme qui était peut-être violent, en tout cas très rigide, très sévère avec sa famille. Mais ça fait pas 20 mois. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans.
On en parle,
mais 20 ans, voilà. 20 ans qu'il... mais on découvre qu'Harry Aumont, alors qu'il était un tout jeune adulte, il était déjà un surveillant extrêmement violent physiquement, voire sexuellement. Donc c'est des hommes qui s'autorisent tout. C'est une construction psychique, c'est une personnalité qui s'autorise tout. De la manipulation, de la perversion, de la violence. Et ils bénéficient d'une chance qui fait qu'ils ne sont jamais rattrapés par leur délit ou par leur crime, et ils grandissent à la façon d'une boule de neige qui grandirait. Ça les renforce, ils se narcissisent de plus en plus, et là, il se fait attraper lâchement dans un supermarché. Mais rien n'est étonnant dans cette histoire, parce qu'il n'a jamais été stoppé ni par la justice, ni par sa famille, ni même par sa conscience, en réalité.
Est-ce qu'il s'est exprimé, Dominique Pellicot, sur ces deux affaires dont on sait qu'elles n'étaient pas au centre du procès de Mazan? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a refusé de parler, hein. Il a refusé de répondre la plupart du temps aux questions des avocats de la défense qui mentionnaient ces affaires-là en disant que ça ne concernait pas le dossier en cours. Mais j'ajouterais par rapport à Dominique Pellicot et tous les profils d'hommes violents que l'impunité dont ils bénéficient les encourage à continuer à agir. Et donc si la société leur permet de faire ce qu'ils font sans qu'ils soient condamnés, ce qui arrive pour la plupart des hommes violents malheureusement, ils se voient garantir leur impunité, ils se renforcent exactement. Jusqu'à ce que un homme comme Dominique Pellicot finira par dire il y avait presque un soulagement pour lui d'être arrêté parce que ça le dépassait et qu'il
c'est ce qu'il fait arrêter en fait.
Exactement.
L'arrestation le fait arrêter.
Oui, tout à fait. Et puis on sait même, pendant le procès, il y a eu des questions sur le fait que est-ce qu'il n'aurait pas cherché à ce qu'on découvre finalement ce disque dur, parce qu'il a agi avec une telle impunité pendant des décennies, peut-être beaucoup plus longtemps qu'on peut le penser. Et au bout d'un moment, ça le dépassait. C'était trop, quoi.
C'est quand même un paradoxe. Ou alors, Johanna nous explique que ça n'en est pas un, mais à la fois, il se présente dans l'affaire dite de Mazan, des viols de sa femme avec des complices, comme quelqu'un qui va aider la justice, qui va tout raconter, qui est prêt à tout dire maintenant, à tout confesser, tout avouer. Et puis à la fois dans les deux cold cases, dont un où il y a son ADN, hein. Il y en a un des deux, on est sûr que c'est lui. Alors là, il dit rien. Donc pourquoi dans un sens il est dans une posture d'aider la justice et puis dans un autre il est alors là au contraire.
C'est une très bonne question. De toute façon, c'est des personnes qui sont ambivalentes. Il y a tout un tas de procédés, de processus qui leur permettent de passer encore une fois entre les mailles du filet parce que finalement ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont tellement une posture, si vous voulez, mise sur un piédestal qu'ils se jouent un petit peu de la rhétorique, des discours, des différentes postures qu'ils vont prendre. Une fois, ils vont se tenir près de la justice, affable, suffisamment ouvert et conscient et capable de répondre aux questions. Et puis, dans un second temps, ça va être minimiser les faits. Oui, vous savez, mais moi aussi, dans l'enfance, j'ai connu des violences. Donc peut-être que je ne me rends pas bien compte, j'ai pas toutes les limites. Et puis, il peut y avoir aussi une autre étape d'inversion de la culpabilité. Non, mais vous savez, moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma famille, auprès de ma femme. Elle me pousse à bout, finalement. Donc, si vous cherchez bien, je suis aussi un homme qui souffre. Donc, c'est tout un tas de stratagèmes qu'on connaît très bien, hein, finalement. On les connaît très bien, ces profils d'hommes-là. Ils n'avouent jamais, ils n'apportent jamais de réponse. Et si vous voulez, en faisant ça, en n'apportant pas les réponses, y compris à Caroline Darian, hein, qui veut savoir, qui est la fille, qui veut absolument savoir, qui a besoin pour se reconstruire, elle lui dit, fais ça pour m'aider, pour que je puisse me reconstruire, pour que je puisse survivre à mon histoire. Dis-moi ce qui s'est passé, ce que tu m'as fait. Eh bien, ces vérités-là, ils vont les refuser parce que c'est encore une fois une manière de garder le pouvoir, de garder le lead, si je puis dire.
Laurent, dans un instant, on reviendra sur les faits très précis, les terres, les chaussures qui font que, et l'ADN évidemment, qui font qu'on parle de Dominique Pellicot dans ces deux cas. Mais j'ai une question plus personnelle avec vous. Vous qui êtes photojournaliste, c'est-à-dire que vous regardez les personnes que vous photographiez avec un œil qui est a priori pas celui que nous pourrions porter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet homme, Dominique Pellicot? Comment vous l'avez, vous, photographié? Comment vous l'avez ressenti? Parce qu'on parle d'horreur confirmée, on parle de doute sur d'autres choses qui sont aussi terribles, mais comment vous, dans l'œil d'un appareil photo, il ressort, cet homme-là? Qu'est-ce qui dégage?
Alors, j'ai malheureusement jamais pu photographier parce que, dans le cadre du procès...
Photographier, en tout cas, avec la rétine.
Il y a que nos confrères et consoeurs dessinateurs de presse qui ont pu le faire. Mais il affichait toujours une posture égale, en fait. On avait d'abord l'homme, parce qu'il a eu des problèmes de santé au début du procès, donc on avait l'image d'un homme un peu affaibli, un peu avachi sur son fauteuil, appuyé d'une canne. Et ça allait de pair aussi avec sa personnalité, parce que, comme vous le disiez, il pouvait arriver un jour en disant je ne répondrai pas à vos questions, laissez-moi tranquille, et revenir le lendemain en demandant au président de s'excuser, en disant je collaborerai, je participerai. Donc il y avait une ambivalence dans sa personnalité, mais son visage restait toujours le même, très peu d'émotions, sauf quand il abordait son enfance et les viols qu'il dit avoir subis enfant, qui est selon lui la seule explication pour ce qu'il est devenu. Mais son visage, on a envie de percer un petit peu ce qu'il y a derrière ce visage qui restait toujours fermé et qui s'efforçait de contenir tout ce qu'on... On voit de mystère.
Et c'est précisément ce qui lui permet d'agir comme il agit. Hein. S'il avait un minimum d'empathie, s'il avait conscience des souffrances qu'il inflige et à sa famille, parce qu'en fait, la souffrance, c'est une onde de choc. C'est Gisèle Pélicot, c'est ses enfants, c'est les petits-enfants, c'est l'entourage, c'est toute cette confiance qui a été brisée, c'est tout le mal qui a été fait. S'il avait conscience de tout cela, s'il avait cette empathie que nous avons tous en nous et qui nous permet de voir qu'on fait souffrir l'autre pour se stopper, il n'aurait pas commis tout ce qu'il a été capable de commettre.
Oui. En revanche, Anna, vous avez beaucoup photographié la famille, puisqu'elle était, elle était là tous les jours au tribunal. Est-ce que vous avez perçu ce passage d'une famille soudée, Gisèle et ses trois enfants qui arrivent ensemble, et puis on le découvre un peu aujourd'hui, on le découvre notamment cette semaine, une famille qui sort de ce procès brisée. Est-ce que ça, vous l'avez vu, pour reprendre l'expression de Ronald, dans l'œil de votre objectif?
Alors, je pense pas l'avoir vu de façon aussi claire parce que j'ai surtout vu Gisèle presque tous les jours, Gisèle Pélicot arriver au tribunal. Je l'ai vu beaucoup entourée de ses soutiens qui étaient des féministes qui venaient pour l'applaudir. Je l'ai vu toujours entourée, en tout cas, de soutien. Et je l'ai toujours vu faire preuve d'empathie et beaucoup de bienveillance envers ses soutiens, en prenant le temps d'aller les remercier, etc. Donc, j'ai surtout pu observer la détermination de Gisèle Pélicot elle aurait le droit de pleurer, de s'effondrer. On n'en attendrait pas. En tant que victime, elle en aurait le droit, mais elle a décidé de garder, en tout cas, elle est parvenue à garder cette posture, et c'est ça qui m'a le plus...
Avec ses enfants, on sent bien que quand même ce procès a été...
L'ampleur de cette violence ne peut que briser une famille, évidemment, et il y a aussi la limite de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on ne sait pas, ce qui relève de la sphère privée et ce qui devient public, car il s'agit de crimes qui concernent la société.
Mais Johanna n'aurait pu penser que la famille et les enfants, la mère et les enfants, ressortent un peu soudés de cette épreuve commune, alors qu'en réalité, on voit bien que ça a l'air d'être l'inverse.
Oui, mais c'est parce que, Laurent, il y a une épreuve collective, c'est-à-dire les enfants qui entourent leur mère face à l'épreuve, et il y a aussi des histoires individuelles. Il y a l'histoire de Caroline.
Il y a le côté global et la division interne.
Il y a chacun avec leur histoire, chacun leur histoire avec leur père. Ils ont à faire face à quelque chose d'extrêmement difficile et j'écoutais Caroline Darian qui l'expliquait très très bien. La fille de Gisèle Pélicot. Elle découvre un visage d'un père et elle a à la fois les souvenirs d'un père dont elle était très très proche. Ils valent quoi ces souvenirs aujourd'hui? Elle a un fils, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Il y a eu une vie de famille, comme on connaît tous. On laisse nos petits-enfants, nos enfants, aux grands-parents, des week-ends, des vacances. Il y a cette confrontation entre ces bons souvenirs et cette réalité qui fait effraction. Et chacun, individuellement, a aussi une histoire avec cet homme-là. Et ça, ça brise une famille parce qu'on... On peut se sentir incompris, on peut se sentir attaqué par le reste de la fratrie, pas juger tous, pas considérer tous de la même manière, et c'est extrêmement violent.
Laurent, pour terminer, je vois qu'on revienne sur ces deux affaires dont on parlait. L'affaire Marion, ce n'est pas son prénom, on l'appelle l'affaire Marion, et l'affaire Sophie Narme. ADN retrouvé sur la scène de viol et l'agression de Marion, qui dit il y avait des gestes très particuliers avec l'ADN de Dominique Pélicot, qui renvoie au meurtre assez sauvage et au viol de Sophie Narme. Et la dernière information, 21 mars dernier, l'avocat de Dominique Pélicot, à la demande de Dominique Pélicot, demande l'exhumation parce qu'il lui dit c'est pas moi. Et pour autant, il y a des éléments très troublants qui ressemblent à la première scène où son ADN a été trouvé. Et sur cette scène-là, est-ce qu'on va travailler dans le sens d'une inculpation et d'une accusation culpabilité reconnue de Dominique Pélicot? Alors, qu'est-ce qui va se passer?
En fait, il y a une illusion d'optique. Le sujet, parce qu'il y a eu l'affaire de Mazan, mais sans l'affaire de Mazan, c'est une juge parisienne, Nathalie Turquet, qui est la juge d'une des trois juges du pôle Colcaise,
de Nanterre,
qui avait découvert Dominique Pélicot et les deux Colcaises avant, deux ans avant. C'est resté cloisonné, on a découvert, nous, dans le public, au cours du procès de Mazan, que cette affaire existait, mais c'est la juge Turquet toute seule qui, en reprenant ces deux vieux Colcaises, celui de 91. Alors, c'est vrai que la juge, elle joue la justice dans cette affaire, à la fois joue de malchance et un peu d'incompétence, parce que en 91, des scellés se sont perdus. L'autopsie de Sophie Narme fait état de présence de sperme, donc de viol.
Et qui ont disparu.
Et puis ça a complètement disparu. 10 ans plus tard, les scellés de Sophie Narme, c'est-à-dire son pull, sa ceinture avec laquelle elle est étranglée, tout ça a disparu. La justice est toujours en train de les rechercher. Et puis, il a fallu 10 ans pour que l'ADN de Dominique Pellicot, retrouvé sur une chaussure de Marion en 99, match avec un ADN qui avait été prélevé de Dominique Pellicot en 2010 déjà. En réalité, tout ça, c'est une somme de dysfonctionnements judiciaires sur lequel il faudra un jour que le ministère de la Justice s'explique, qui fait qu'on le sait, Nathalie Turquet l'a établi, Dominique Pellicot aurait dû être arrêté en novembre 2011, c'est-à-dire avant que les viols de Mazan ne commencent.
Et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Merci, mesdames, d'avoir été sur le plateau pour évoquer le cas de Dominique Pellicot et ses questions qui restent en suspens. Merci beaucoup.